citations bibliques. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, Dieu fait chair, possédait en lui sans restriction le Saint-Esprit. Et cela n'empêche cependant pas de dire « Je ne puis rien faire de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Il agissait donc en parfaite conformité avec le plan que Dieu lui donnait, sa volonté. Dès lors, comment nous serait-il possible de prétendre être un de ses disciples sans faire de même? Le Fils de Dieu enseigna les apôtres durant 3 ans et demi, mais ne leur permit cependant pas de prêcher l'Évangile avant d'avoir été rendu parfait en matière d'enseignement de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils allaient professer, allaient représenter le divin modèle que chaque être humain devrait suivre. Ils désiraient que cela soit parfait en tout point. Ils voulaient que nous suivions fidèlement ce plan et que chacune de nos actions et de nos pensées en soit le calque exact. Aucune épreuve de fidélité, de loyauté ou de confiance ne peut surpasser le désir profond de suivre sa parole avec une constance opiniâtre en s'y conformant à la lettre. Une couturière perdrait très vite la confiance de sa clientèle si elle ne respectait ni le goût ni le patron établi par les personnes qui lui confient le soin de les habiller. Il en irait de même avec un entrepreneur ne suivant pas dans tous les détails le plan établi par l'architecte. Une église ou un prédicateur qui ne respecte pas la parole de Dieu et ses instructions de suivre le plan divin serait indigne de la confiance du public. Il est toutefois fort étrange de constater que chacun est prêt d'admettre ce principe en ce qui concerne la couturière et l'entrepreneur, mais adopte une attitude extrêmement tolérante lorsqu'il s'agit de suivre le plan de Dieu afin de mener ce qu'il y a de plus précieux au monde vers la fidélité éternelle, son âme. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait ériger 3 choses matérielles. L'arche de Noé, le tabernacle et le temple. Pour l'édification de chacune d'entre elles, l'Éternel a réglé tout, jusqu'aux détails les plus infimes. Ceci représentait un plan divin dont le strict respect constituait pour leur constructeur une épreuve de foi, une épreuve de loyauté. Aucun patron, aucun plan ne permet de changer des détails ou un ensemble de choses clairement tracées et détaillées. Devrions-nous être dirigés par ce que le Nouveau Testament dit ou par ses silences? Par quoi? Lorsque les hommes utilisent quelques gouttes d'eau au lieu d'une aspersion totale, ou des instruments de musique dans le culte, ils se servent d'une excuse très courante. Mais le Nouveau Testament ne l'interdit pas. Cela veut-il dire qu'il l'autorise? Cela serait-il toléré par l'architecture, dans l'utilisation des plans, ou par la couturière qui se permettrait cette liberté? La Bible dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Un exemple typique de ce principe peut être trouvé dans l'Ancien Testament, en Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Leur mort était due à quelque chose que Dieu n'avait pas ordonné. Il est de même impossible de suivre fidèlement le plan divin, de vraiment s'y conformer sans se baser sur le Nouveau Testament contenant l'exacte volonté de Dieu. Impossible de suivre ce plan et d'avoir dans le culte de l'Église quelque chose qui n'y est pas mentionné. Impossible d'être, d'enseigner ce que Dieu ne dit pas, ni de porter un nom qu'il ignore. En le faisant, on dévierait immédiatement sur ce point. En effet, le plan divin suivi sans constance et fidélité élimine d'office tout ce qui lui est étranger. Souvenons-nous qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Après avoir autrefois dit la Bible, Bible à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères, par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ fait autorité en matière spirituelle puisqu'il l'affirme lui-même. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dirige tout dans son Église, car Paul dit lui-même, Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, en tous. C'est pourquoi ces enseignements aux apôtres contiennent l'entièreté de la vérité. Ce qui fait dire à l'un de ses disciples, l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cette parole est donc un guide absolument parfait. Le plan divin que chacun de nos jours doit suivre. Ce n'est nullement l'Église qui représente ou qui dispense ce plan. Au contraire, elle n'en est que la résultante et le seul moyen de se maintenir dans la voie que Dieu nous trace. C'est de revenir inlassablement à l'origine, à la source, au plan divin. Lorsque Moïse fut divinement averti d'avoir à construire un tabernacle, l'Épître aux Hébreux stipule que Dieu lui recommanda ceci, « Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Supposons que Dieu ait dit à Noé de construire 10 arches, à Moïse de diriger 10 tabernacles, et à Salomon d'élever 10 temples. Mais que chacune d'entre ces constructions devait être conforme au plan donné. Ces arches, ces tabernacles et ces temples, auraient-ils vraiment été semblables? Tout aurait dépendu de la fidélité et de l'exactitude avec lesquelles les constructeurs auraient suivi le plan établi. Rien n'aurait pu différer, même dans les détails, et la première construction aurait été exactement semblable à la suivante. Le même principe s'applique à 10 robes confectionnées d'après le même patron ou encore à 10 maisons construites selon un plan unique. Rien ne peut être dissemblable si le même patron ou le même plan ont fidèlement été suivis. Dans les premiers temps du christianisme, chaque assemblée de l'Église était identique aux autres, pour autant que les hommes aient bien sûr observé les indications apostoliques. Tout était semblable. La fondation, le nom, l'organisation, le culte, la doctrine, le plan de salut, etc. Les chrétiens étaient un, comme l'avait demandé l'épistolier aux Corinthiens. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Cela correspondait d'ailleurs à une prière que Jésus adressait à son Père peu avant de mourir, et qui concernait non seulement ses apôtres, mais aussi ceux qui obéiraient à leur message. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il est permis d'insister ici sur le fait que toutes les assemblées qui suivent fidèlement le modèle divin et se conforment à lui en toutes choses seront nécessairement spirituellement identiques. Le contraire serait totalement impossible. Dieu nous demande d'être unis et identiques en esprit, en sentiment, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous. Alors, qu'attendons-nous? Soyons unis en esprit et en sentiment. Tenons tous un même langage, n'ayons aucune division parmi nous. L'apôtre Paul ne s'écrit-il pas à un certain moment de sa vie de prédicateur de l'Évangile? Il y a un seul corps et un seul esprit, comme si vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Certains éléments, parmi d'autres, unissent ou divisent. D'abord, l'union. L'auteur des Actes dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » L'apôtre Paul dit également dans sa lettre aux Colossiens, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Et puis, le chemin. Jésus nous avertit cependant à ces termes, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, audacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Un seul modèle unit ceux qui le suivent. Des centaines de millions d'êtres humains suivent le même étalon de poids et de mesure, et cela semble tout naturel. Pourquoi dès lors ne suivons-nous pas le même chemin en ce qui concerne notre spiritualité? Il y a encore la loi. Il y a encore, une fois de plus, des millions de citoyens suivent et sont en quelque sorte unis par la même loi. Supposons que l'on choisisse 100 hommes honnêtes en qui l'on puisse avoir totalement confiance. On leur donne à chacun un nouveau testament et on les envoie chacun dans une ville différente pour semer la semence du royaume, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ils fonderont 100 assemblées de l'Église du Christ basées sur la même loi, la parole de Dieu. Sont identiques, aussi identiques que les robes et que les maisons confectionnées et construites à partir d'un patron d'un plan unique. Tout dépendra de la fidélité avec laquelle ces assemblées vont suivre les enseignements de Jésus. Ces 100 églises du corps de Christ ne peuvent différer si les 100 hommes leur ont honnêtement enseigné le Nouveau Testament en toute chose et rien d'autre. Aujourd'hui, ce qui divise le christianisme découle tout simplement d'un manque d'honnêteté vis-à-vis de cette règle fondamentale. On suit des commandements et des conducteurs humains qui n'ont aucun respect pour la volonté de Dieu. Cela fait penser à un menuisier qui crée un objet d'après un plan, mais ensuite se sert de cet objet comme modèle, et ainsi de suite, sans plus jamais regarder le plan original. Avez-vous déjà réfléchi à tout cela en profondeur, honnêtement, avec votre cœur? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Commencez donc aujourd'hui même à suivre le plan que Dieu vous donne, le Nouveau Testament. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement j'entends car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde, et à mercredi prochain, même heure.